Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et on poursuit avec vous, Yvan Rioufol. Bonjour, merci d'être à notre antenne ce matin encore.
Bonjour, Liselotte Dutreuil.
Alors, on a hâte d'entendre votre avis sur ce nouveau conflit qui éclate. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du choix d'Israël et des États-Unis d'attaquer l'Iran ?
Écoutez, mon avis est en l'occurrence celui des Iraniens. Celui des Iraniens de la diaspora, des Iraniens qui se sont exilés par millions pour fuir cet horrible régime, et puis celui des Iraniens d'Iran, des Iraniens de l'intérieur, qui manifestent maintenant avec un courage inouï depuis des années, et très récemment encore, contre la dictature des Mollahs. Et ceux-là, naturellement, ont éclaté, tous ces Iraniens ont laissé éclater leur joie à l'annonce de la mort samedi matin de l'ayatollah Khamenei, sous les bombes américaines et les bombes israéliennes. Et je me plie également à l'avis, dans le fond, de l'ensemble des pays arabes alentours qui, eux aussi, ont applaudi à l'élimination de cet ayatollah et qui applaudissent, dans le fond, à la politique très audacieuse, en effet, de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou. Donc, moi, je me contente très modestement de coller, dans le fond, au sentiment des peuples. Et je me permets de rappeler que, si j'entends effectivement la critique qui est portée de dire que c'est une atteinte à la souveraineté des États que effectivement d'avoir bombardé sans déclaration de guerre, notamment. En effet, formellement, l'accusation est valable. En effet, le droit international a été violé. Mais le régime iranien ne cesse de violer lui-même le droit international. Et puis surtout, j'aimerais tout de même rappeler à ceux qui brandissent la souveraineté d'un État que la souveraineté d'un État ne vaut que si le peuple lui-même est souverain. Or, ce n'était visiblement pas le cas, ce n'est visiblement pas le cas des Iraniens qui sont oppressés par une dictature de plus en plus cruelle dont ils voudraient se débarrasser. Donc ma position est de coller effectivement, que ce soit en France ou en Iran, de coller au sentiment des peuples opprimés. Donc pour répondre à votre question, je ne pense en effet que du bien de cette attaque d'un régime apocalyptique qui promeut en plus le terrorisme à travers le monde et qui est en train de le disséminer dans les pays arabes alentours à l'heure où l'on parle. Alors, donc, et en cela, je suis très déçu, et c'est une litote, par ceux qui, en France, par simple réflexe anti-sioniste ou anti-atlantiste, en sont même à espérer, à prédire l'échec de cette opération militaire, qui en effet est une opération militaire très, très risquée. Et Trump a pris un risque considérable, sans doute sous la pression d'Israël, cela est vrai également, mais cela n'empêche pas, effectivement, d'avoir à applaudir, me semble-t-il, en tout cas, cette décision, même si, effectivement, Donald Trump a écorné sa doctrine, puisqu'il avait promis de ne pas intervenir, en tout cas, comme le faisaient les néoconservateurs de Naguère. On n'a pas le temps de rentrer dans ces considérations-là, mais sa politique n'est pas tout à fait la même malgré tout. Et en tout cas, s'il gagne, et c'est bien là quand même l'essentiel, s'il gagne, Trump et Netanyahou, Bibi, seront les libérateurs d'un peuple. Et moi, je fais pour ma part ce pari, en effet, je croise les doigts, bien entendu, que cette option d'une libération du peuple iranien puisse être gagné. Il s'est donné, les États-Unis sont donnés un mois au maximum, et je crois que ceci est gagnable. Mais en tout cas, ceux qui jugent que ce qui se passe en Iran n'est pas leur affaire, que cette guerre n'est pas la leur, se trompent, parce que le terrorisme islamiste qui a tué nos soldats au Liban est un terrorisme islamiste iranien qui a déjà tué en France, notamment en 1985-1986. Donc, et la menace terroriste, naturellement, nous pèse encore sur les épaules. Vous savez, on ne se rend pas compte, mais la France a commencé à vivre déjà à l'israélienne, si je puis dire, c'est-à-dire qu'elle a à subir d'abord les assauts des terroristes très régulièrement, elle a à subir les intifadas qui parsèment maintenant quasi quotidiennement, à travers des insurrections de la contre-société qui parsèment les banlieues insoumises, et puis on risque en effet de connaître en France également l'équivalent de ce qui fut le 7 octobre 2023, c'est-à-dire cette attaque terroriste de masse portée par le Hamas en l'occurrence contre la société israélienne. Il pourrait y avoir de même de même mouvements terroristes, et les services de sécurité s'en inquiètent. Et donc, c'est un conflit qui nous concerne. Et quand j'entends l'extrême gauche hurler effectivement à cette opération menée par les États-Unis en disant qu'elle ne respecte pas les règles internationales, etc., je ne m'en étonne pas vraiment, car l'extrême gauche partage avec cet islam radical iranien une même détestation de ce qu'est l'Occident. Et d'ailleurs, je vois bien que à travers tout ceci, on flatte des sentiments judéophobes. Mais en revanche, je m'étonne d'entendre également ces mêmes arguments du côté de la droite, voire même de la droite radicale, qui serait prête, même si on entend certains arguments, à trouver des vertus religieuses aux mollahs, au prétexte qu'ils afficheraient de bons sentiments en promettant qu'ils n'useraient jamais de la bombe atomique. Enfin, on se moque du monde. Il y a une grande naïveté à vouloir croire naturellement ces discours des mollahs. Et je pense que cette grande naïveté, d'abord, elle est très dangereuse. Et puis, c'est une naïveté qui imprègne également, me semble-t-il, le discours officiel français lui-même.
Alors, justement, qu'est-ce que vous pensez de la position de la France dans ce conflit, Yvan Rioufol ?
Je la trouve pusillanime, comme souvent, en effet, et même désolante. C'était les premiers mots d'Emmanuel Macron auront été des samedis matins pour dire que la France n'avait été ni prévenue ni impliquée, c'est-à-dire on l'a entendu dire c'est pas moi, c'est pas nous, ce qui n'est pas quand même malgré tout une grande marque de courage. Et j'ai entendu hier Valérie Ayer, la députée européenne du clan macroniste, nous dire qu'elle considérait désormais que les États-Unis de Donald Trump n'étaient plus nos alliés. Donc c'est un vrai lâchage. En fait, de la politique des États-Unis. Et de fait, en effet, Emmanuel Macron ne partage pas les buts de guerre de Trump et de Bibi Netanyahou, si je puis dire, puisque hier, à Brest, on a entendu le président de la République désigner la Russie, et non pas l'Iran, dont il n'a pas parlé, ou il nous a dit qu'il en parlerait plus tard, comme étant la menace principale pour la France et pour l'Europe. Et en général, on l'entend très régulièrement également désigner l'international réactionnaire comme étant aujourd'hui la menace, en tout cas son principal adversaire, sans voir que son principal adversaire, notre principal adversaire, ce n'est pas tant l'international réactionnaire, ce n'est pas tant la Russie, que l'international islamiste. Je ne vais pas reprendre la démonstration que j'ai faite tout à l'heure. Donc, en réalité, on voit que la diplomatie française, qui a toujours été à l'écoute de la rue arabe, d'une manière très traditionnelle, devient de plus en plus à l'écoute de sa propre rue arabe. C'est ceci qui est également à remarquer. Et cette propre rue arabe, qui a naturellement été construite à travers une immigration qui maintenant, depuis 40 ans, a bouleversé une partie de la physionomie de la France, est supposée être opposée, dans le fond, à la politique israélienne. Et donc, en effet, on a entendu le président de la République ne cesser de répéter, et encore hier, pour être libre, il faut être craint. Mais on chercherait en vain, et je cherche en vain, ces prises de position contre cet islam colonisateur, cet islam djihadiste. Et certes, j'ai entendu hier également que le président de la République avait dit qu'il respecterait malgré tout ses alliances avec les pays arabes qui sont maintenant attaqués par l'Iran, d'ailleurs avec une sorte d'incompréhension sur la manière dont l'Iran s'isole lui-même, même à travers des pays musulmans, puisque en fait on aurait pu penser qu'il y aurait une solidarité musulmane, mais pas du tout. Donc on a évité là un choc de culture et de civilisation, Dieu merci. Mais on voit que même ces promesses d'alliance de soutien avec les pays arabes attaqués manquent de volonté. Car il ne dit toujours pas un mot du fait d'encourager Trump. Or, c'est Trump qu'il faut encourager. Je pense qu'il y a une grande hypocrisie chez ceux qui tremblent devant l'islam. J'ai entendu Hollande, par exemple, nous dire qu'il déclarait souhaiter que le régime s'effondre, mais en même temps, il ponctue ses déclarations avec des mais qui laissent comprendre que tous ces gens qui abominent Trump et qui abominent Netanyahou n'arrivent pas effectivement à émettre effectivement le moindre jugement positif précisément sur Trump et sur Netanyahou. Pourtant, il pourrait bien advenir que ce soit eux, ces deux affreux, ces deux épouvantails, qui aient raison devant l'histoire. Moi, en tout cas, Naturellement, c'est un pari, on le verra. Moi, je pense que la France devrait être, pour résumer, auprès de ses libérateurs des Iraniens. Encore une fois, je reviens à la position des Iraniens et des pays arabes alentours qui applaudissent à ce qui se passe. Et je pense que c'est aux Iraniens, naturellement, de choisir ensuite leur régime. Pourquoi pas, d'ailleurs, le fils du Shah, s'ils le désirent. C'est en effet ce qui semble vouloir apparaître le plus. Mais dans cette grande bascule géopolitique qui vient clore le récit fictif sur la mondialisation heureuse, il faut maintenant choisir son camp. Et en tout cas, mon camp, le mien, ne sera certainement pas du côté des oppresseurs, ni des Iraniens, ni des oppresseurs des Français non plus, d'ailleurs, toutes choses égales par ailleurs.
Merci beaucoup, Yvan Rioufol, pour cette analyse. Puis vous l'avez dit, c'est un pari, mais comme toujours dans ce genre de situation, donc on verra comment les choses évoluent. Puis on ne manquera pas de vous interroger à nouveau en fonction de si votre pari se vérifie ou non. Merci, puis je vous dis à mardi prochain.
À mardi.
Ligne droite, le monde autrement, Mériadec Raffray.
Et nous poursuivons avec notre partenaire du mardi, Mériadec Raffray, rédacteur en chef VA Monde, auteur de différents ouvrages, Le Cèdre et le Soldat notamment, La présence militaire française au Liban, Le Touareg, la révolte des hommes bleus aux éditions Economica. Voilà, plein d'ouvrages que vous pouvez retrouver en ligne. Et pour cet entretien, je cède la parole à Maïlys Clauzel.
Merci Lislotte de me céder le micro et bonjour à vous Mériadec Raffray.
Bonjour Maïlys.
Bonjour, on espère que vous nous entendez bien. Aujourd'hui, on va parler évidemment de ce coup de force des États-Unis et d'Israël en Iran. Alors, pour commencer cet entretien, Mériadec Raffray, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce qu'il s'est passé ce week-end et surtout nous livrer votre point de vue?
Oui, effectivement, je pense qu'on peut déjà, on peut maintenant tirer un premier bilan à chaud de ce week-end de choc qui s'est abattu effectivement sur le Proche-Orient. Pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi votre émission hier, je rappelle que tout a commencé vers la foudre s'est abattue sur la Perse vers 7h30 ce samedi 28 février. Deux partenaires donc ont ouvert le feu sur la Perse, c'est d'une part les États-Unis et Israël, et à la différence de ce qui s'était passé lors de la guerre des 12 jours en juin, cette fois on a bien compris qu'il y avait une coordination en fait entre les États-Unis et Israël. C'est la première différence avec le choc de juin. Je rappelle que pendant la guerre des 12 jours en juin, Israël avait ouvert le feu le premier d'initiative sur les installations nucléaires de l'Iran qui sont dans son viseur depuis des années, la raison pour laquelle Israël parle de l'ennemi, de son ennemi existentiel, et elle ajoutait d'ailleurs cette fois immédiat à propos de l'Iran, et elle avait en quelque sorte entraîné un peu de force les États-Unis à la rejoindre dans cette frappe qui visait à l'époque le nucléaire. Et cette fois, donc je parle donc du 28 février, les choses ont été vraiment coordonnées. Les généraux israéliens et américains d'ailleurs ont enchaîné les allers-retours entre les deux capitales de part et d'autre de l'Atlantique pour se coordonner. On a compris que les Israéliens, ils ont mis une flotte d'avions en l'air absolument incroyable. Ils ont mis 200, enfin oui, incroyable, 200 avions de chasse en l'air. Ils ont traité en 24-48 heures près de 700 cibles d'un seul coup dans ce laps de temps, et ils se sont concentrés sur les cibles à haute valeur ajoutée politico-stratégique, c'est-à-dire les figures du régime et toutes les responsables en fait politico-militaires, ceux qui était censé tenir en fait les chaînes de commandement de l'appareil militaire iranien. Au passage, cela montre que les Israéliens étaient extrêmement bien renseignés sur les habitudes, les lieux, les endroits où vivaient et travaillaient ces gens-là. D'ailleurs, on a compris à quelques heures après que l'opération qui devait, cette opération qui s'appelle Fury Épique chez les Américains et Lion Rugissant chez les Israéliens, aurait dû commencer, enfin devait, était prévu de commencer durant la nuit, comme on fait d'habitude lorsqu'on veut frapper l'ennemi avec le maximum de sidération, et elle a été décalée au matin pour une raison très simple, c'est que les Israéliens ont eu un renseignement selon lequel il y avait un regroupement, une réunion en fait de hauts dirigeants iraniens dans le quartier Pasteur à Téhéran, là où se situe notamment la résidence officielle du fameux guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Ils ont lâché pas moins de 30 bombes sur cet endroit d'un seul coup. Et ils ont, au final, on a compris, les chiffres sont toujours un peu mouvants, mais on a compris qu'en quelques heures, les Israéliens avaient décapité d'un seul coup une cinquantaine de hauts dirigeants militaires et politiques du régime, dont la figure qui incarnait en fait la République islamique d'Iran depuis 1989, le fameux guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, qui, je le rappelle, pour la branchie de l'islam, est en quelque sorte celui qui fait le lien, qui est en connexion directe avec le prophète. Donc c'est un messager ou un trait d'union entre la terre et le ciel musulman. Une figure donc absolument centrale en fait de ce régime. Il avait 86 ans, il était au pouvoir depuis 1989 et il était considéré par les Occidentaux, les Américains, les Israéliens, mais également les Français, oui, comme l'homme qui avait orchestré le terrorisme d'État dans tout l'Occident. Donc c'est une victoire à la fois symbolique et politique importante. Donc les Israéliens, et puis pour terminer ce petit tour de situation, je disais que les Américains se sont davantage concentrés sur les objectifs militaires, les défenses solaires iraniennes, en ciblant notamment les vecteurs, c'est-à-dire les systèmes qui permettent de lancer les fusées, mais également la marine iranienne, car l'Amérique veut absolument, tente absolument d'éviter ce qui serait vraiment compliqué à gérer, c'est-à-dire un blocage du détroit d'Ormuz, ce passage en fait entre l'Iran et la péninsule arabique, qui mesure à peu près une trentaine de kilomètres, par où transite à peu près entre 20 et 30% du trafic de pétrole mondial et 15% du trafic de conteneurs mondial. La majorité du pétrole en fait qui sort des puits à la fois iraniens, saoudiens, mais aussi les méthaniers qui récupèrent le gaz du Qatar, passe par ce goulot d'étranglement. Et donc il fallait absolument neutraliser cette marine dont le PC, dont le QG ou le port principal se situe à Bandar Abbas, qui est sur la côte, quasiment en face de la presqu'île émirienne, entre Oman et les Émirats arabes unis, pour faire simple. Et donc, si vous voulez, pour résumer ce bilan, en 24 heures, le bilan est finalement assez mitigé. D'un côté, les Américains et les Israéliens ont appliqué un choc inédit sur l'appareil d'État israélien, en décimant une grande partie en fait de ses hauts dirigeants, en frappant également ses capacités de riposte et sa marine, c'est d'un côté. De l'autre, ce bilan est mitigé, puisqu'on a bien vu qu'après après un moment de sidération, le système de défense iranien s'est repris en main, en quelque sorte, et a commencé à riposter tous azimuts à l'attaque israélo-américaine, puisque quasiment dans les heures qui ont suivi, à peu près même une heure ou une heure et demie plus tard, les missiles et les drones iraniens ont commencé à tomber dans toute la région. Bien sûr, plusieurs vagues ont ciblé Israël. Je vous rappelle que pendant cette phase de montée en puissance qui a conduit à ce choc de week-end sur lequel on pourra revenir, sur les raisons pour lesquelles on pourra revenir tout à l'heure, Maïlis, les Iraniens avaient dit « Si vous frappez, l'apocalypse de Dieu, disait-il, tombera sur votre tête. » Alors l'apocalypse n'est pas tombée, en revanche, la riposte a été et continue d'être vraiment importante, donc d'une part sur Israël. J'avais en ligne une correspondante en Israël qui, en fait, pour pouvoir me parler au téléphone, attendait une accalmie entre les alertes qui se succédaient en Israël et qui obligeaient les gens à rejoindre des abris blindés, si vous voulez, bétonnés sous la terre pour se mettre à l'abri. Toute la journée, comme ça durait, avec des vagues d'alertes importantes, et il y a plusieurs dizaines de missiles par vagues successives qui sont tombées sur Israël avec des dégâts importants sur les grandes villes. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, et c'est peut-être là la nouveauté par rapport notamment à la guerre de juin, c'est que cette fois, les Mollahs savent qu'ils sont acculés, ils jouent leur va-tout et ils arrosent toute la région de drones et de missiles. Il y a à peu près une trentaine de bases américaines disséminées dans la région. La plupart ont reçu des projectiles, mais pas seulement. Des projectiles iraniens sont même tombés sur Chypre, l'île méditerranéenne, qui est une base historique pour la chasse britannique, dont on a su très vite qu'elle opérait aux côtés des Américains. C'est un signal politique envoyé par les Iraniens aux Européens. Un drone également est tombé sur la base française d'Abu Dhabi, donc aux Émirats Arabes Unis, dimanche, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui aurait fait peu de dégâts, mais qui aurait brûlé un hangar à la limite de la base française et des installations portuaires émiriennes. Où je rappelle, il y a plusieurs centaines de Français qui sont basés en permanence. Mais c'est aussi là aussi un signal politique important. Par ailleurs, plusieurs cibles civiles ont été touchées durant le week-end donc aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, au Koweït, au Qatar. À Dubaï, par exemple, la fameuse île The Palm qui a été touchée. Un grand hôtel est en flammes. Et alors, il y a deux explications, peut-être les deux d'ailleurs sont complémentaires. D'une part, on peut imaginer que les précisions de tir iranien ne sont pas toujours au rendez-vous et que des projectiles, si vous voulez, non pas se perdent, mais s'éloignent, avec les effets notamment de la défense anti-aérienne, s'éloignent de leur cible initiale et tombent un peu de manière aléatoire. C'est une première explication. Et la deuxième, c'est que les Iraniens veulent semer l'effroi dans toute la région, se venger, semer l'effroi chez leurs voisins. Et puis il y a là une troisième, ou en tout cas une version complémentaire de la deuxième, c'est que les Iraniens, en fait, auraient tapé ces cibles apparemment civiles, mais dans lesquelles il y aurait eu soit des Américains, soit des Israéliens liés au gouvernement. Voilà, donc en tout état de cause, la photographie que l'on peut tirer de ces 72 premiers jours de ce conflit que j'ai envie d'appeler le début d'une troisième, hypothétique troisième guerre du Golfe, est une photographie relativement inquiétante. Les Américains et les Israéliens, évidemment, voulaient éviter une escalade. Pour l'instant, la riposte iranienne tous azimuts esquisse l'escalade. On sait qu'il y a plusieurs dizaines de bateaux, de bâtiments qui sont bloqués dans le détroit, dans le golfe Persique, et qui ne peuvent plus sortir par le détroit d'Ormuz. Je vais y arriver. Il y a des dizaines, des centaines de milliers de voyageurs qui sont bloqués dans tous les aéroports de la région, qui ont tous fermé les uns après les autres. Oui. Et puis, peut-être pour apporter un élément économique supplémentaire, vos auditeurs n'ont pas, l'imaginent bien, les prix, les cours du baril de pétrole et du gaz ont flambé dans toutes les bourses. Même si ce matin, les flambées baissaient un peu, on peut imaginer que ces flambées pourraient continuer et déstabiliser, en tout cas à court terme, les cours des hydrocarbures. Avec évidemment une inconnue, c'est la capacité du régime de la République islamique d'Iran à riposter dans la durée. On ne maîtrise pas vraiment ce paramètre. On sait, enfin les experts avaient estimé la force de missiles que les Iraniens avaient réussi à reconstituer après la guerre des 12 jours de juin qu'il avait déjà énormément frappé. Les Iraniens avaient réussi à reconstituer en partie cette force de missiles. On dit qu'ils auraient d'ailleurs bénéficié de l'aide peut-être de la Russie et sans doute de la Chine pour accélérer cette reconstruction. Cette force de missiles constituerait de l'ordre de 2000 missiles, si vous voulez, dans les soutes iraniennes. Bon, c'est difficile évidemment à confirmer. Ce week-end, les Américains ont évidemment ciblé les dépôts connus. Donc voilà, on en est là et en fait on rentre maintenant dans une course de vitesse, une course de durée entre d'un côté les Israéliens, les Américains pour faire plier complètement le régime et de l'autre ce régime qui, malgré les décapitations vraiment historiques, il faut à nouveau le souligner. Oui. Continue, enfin n'est pas moribond, hein. En tout cas, il continue de riposter jusqu'à quand, voilà. Et on en est là. Et c'est si vrai que hier soir, pour ce qui concerne Donald Trump, et ce matin ou hier soir aussi pour Benjamin Netanyahou, les deux leaders ont affirmé, déclaré qu'ils étaient prêts, qu'ils pensaient qu'ils étaient prêts à relever une campagne aérienne, à continuer une campagne aérienne qui pourrait pendant plusieurs semaines. Donald Trump a dit que la première planification avait prévu après quasiment un mois de campagne, qu'ils étaient prêts à aller au-delà, et Netanyahou a dit ce matin qu'il pensait que ça allait durer une trentaine de jours, donc c'est à peu près la même chose. Donc un mois de campagne aérienne, une violence telle que celle à laquelle on a assisté ces 24 dernières heures, c'est quelque chose qui est quand même très, 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 très... Enfin, c'est pas inédit, mais si vous voulez, c'est une campagne qui peut avoir des conséquences incroyables. D'abord, évidemment, pour les Iraniens, et pas seulement pour l'élite, parce que cette campagne, si elle se développe dans tout l'Iran, compte tenu du raisonnement et de la manière dont les Iraniens ont construit en fait leur pouvoir pour résister justement à cette campagne, elle aura forcément des impacts importants sur les civils. Et vous savez, Maïlis, et on va peut-être en reparler, sur les buts de guerre des Israéliens et des Américains, les civils évidemment ne sont pas du tout une cible, sont au contraire à éviter dans cette campagne occidentale. Donc cela aura forcément des conséquences sur l'Iran, mais aussi sur les économies mondiales. Mais je vous propose peut-être, Maïlis, d'essayer de comprendre, peut-être de revenir en fait avec, pour vos éditeurs, sur la raison pour laquelle finalement Donald Trump a décidé cette fois, non pas d'être entraîné dans le conflit, mais de frapper si vous le voulez bien.
Oui, oui, c'était l'objet de ma seconde question justement.
Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... En fait, Donald Trump s'était résigné finalement à accepter de renégocier avec les Iraniens. J'en ai parlé sur cette antenne. Et le 6 février dernier, les négociations avaient repris à Oman, à Mascate précisément, la capitale d'Oman, qui est cet petit État bordé par l'océan Indien qui termine au sud de la péninsule arabique et qui traditionnellement est un état de diplomatie, un état tampon, un état dont les dirigeants parlent à absolument tout le monde dans la discrétion. Ils ont une tradition en fait de go-between, de trait d'union dans cette région entre les différentes monarchies, mais aussi entre les différentes monarchies et les grandes puissances, notamment les Américains. Et pour la première fois, le 6 février dernier d'ailleurs, à la surprise générale, une partie de la réunion entre les émissaires américains et les émissaires iraniens. Je vous rappelle, d'un côté, il y avait toujours le même duo américain, c'est-à-dire le gendre du président, Jared Kushner, hein, maintenant on connaît bien son nom, et puis l'autre bras droit de Donald Trump pour les dossiers spéciaux, l'homme d'affaires Steve Witkoff, qui est aussi un magnat de l'immobilier comme le président. D'un côté, il y avait aussi le patron de CENTCOM. CENTCOM, c'est cet grand commandement américain sous lequel sont placées l'ensemble des forces qui opèrent finalement depuis la Turquie jusqu'à l'Afghanistan et au Pakistan, dans toute cette région-là. Central Command, c'était un amiral dont le nom m'échappe, Bob quelque chose. Et d'ailleurs, c'était un signal. On négocie, mais avec le pistolet sur la tempe. Je vais y revenir. Et de l'autre, il y avait le ministre des Affaires iranien, dont je vais écorcher le nom, donc je ne vais pas le rappeler en fait, parce que sinon je vais mal le dire, qui est un fin négociateur. Et pour la première fois, contrairement aux négociations qui avaient eu lieu avant, à la veille des frappes de la guerre des 12 jours en juin dernier, en juin 2025, cette fois, les Américains et les Iraniens se parlent en face à face, dans la même pièce, hein, pour faire simple. Avant, ils étaient dans deux pièces différentes, puis il y avait des gens qui faisaient les navettes entre les deux. Et là, les deux délégations se parlent directement, et les choses semblent avancer, à telle enseigne qu'après le 6 février, la semaine suivante, les pourparlers reprennent à Genève. Et d'ailleurs, la semaine dernière, la suite, donc trois semaines après le début de la reprise des pourparlers, la semaine dernière, le jeudi 27 février, donc la veille, jeudi 26 février, puisque c'est samedi 28, les pourparlers continuaient à Genève entre les deux négociations. Et si vous voulez, vendredi 27, c'est-à-dire la semaine dernière, dans le bureau de Jill Evans, le vice-président américain à la Maison-Blanche, avait été invité le ministre omanais des Affaires étrangères, qui gérait ses pourparlers et qui était venu spécialement à la Maison-Blanche pour débriefer le vice-président américain sur les dernières avancées intéressantes des pourparlers qui s'étaient tenus jeudi. Et ce vendredi, donc, l'Omanais avait expliqué à Jill Evans que les Iraniens avaient fait officiellement un pas important, puisqu'ils étaient d'accord pour rétrocéder leur fameux stock d'uranium enrichi à plus de 60%. Rappelez-vous, les accords sur le nucléaire de 2015 contraignaient les Iraniens à ne pas enrichir à plus de 3,67% ou 69%, c'est-à-dire le nécessaire pour leurs activités civiles. Et puis, à nouveau, on le rappelle, en 2018, Donald Trump, qui gagne les élections, décide de biffer la signature de l'Amérique sur ce traité, de sortir du traité et de reprendre les sanctions contre l'Iran. À ce moment-là, l'Iran, elle, se sent libre de répliquer et recommence les enrichissements. On en était là lorsqu'en juin dernier, les Américains et les Israéliens bombardent l'Iran pour, disent-ils, l'empêcher d'avoir de la bombe nucléaire. Bref. Jeudi dernier, donc les Iraniens lâchent du lest, car ils sentent la pression, le pistolet chargé sur leur tempe qui pèse de plus en plus lourd, car effectivement le dispositif américain dans la région est assez incroyable. Et donc ils lâchent cette concession, mais ils disent en même temps, et c'est là où on retrouve bien les Iraniens, mais il nous faudra quand même 3 mois pour la mettre en œuvre, c'est-à-dire pour rétrocéder ces stocks. Et là, visiblement, à la fois, si vous voulez, le pas fait par les Iraniens vers les Américains était très important, et en même temps, il n'était jamais suffisant, puisque finalement, et c'est là que je voulais en venir, le président américain avait accepté de relancer les négociations, d'un côté avec un pistolet maintenu sur la tempe iranienne, et de l'autre en leur fixant des lignes rouges en quelque sorte inatteignables. Je reviens sur ces lignes rouges, elles sont importantes pour comprendre ce qui vient de se passer. Les Américains, et évidemment derrière les Israéliens, exigeaient du régime de la République islamique d'Iran qu'elle mette fin entièrement à son programme nucléaire, c'est-à-dire militaire et civil, qu'elle démantèle ses installations, qu'elle rétrocède l'ensemble de ses stocks d'uranium enrichi, d'une part. Ensuite, qu'elle limite de façon drastique son arsenal de missiles, dont je rappelle que c'était en quelque sorte la dernière, l'ultime assurance-vie garantie du régime face, évidemment, oui, à Israël et aux États-Unis. Et enfin, qu'elle s'engage à ne plus avoir de contact avec les fameux proxys, les fameuses milices chiites dans la région, qu'elle instrumentalisait depuis des années, pour en quelque sorte exporter sa défense loin de ses frontières. Je parle des milices chiites irakiennes qui avaient trouvé un boulevard en 2003 lorsque les Américains étaient intervenus pour neutraliser Saddam Hussein, qui lui était en quelque sorte un point d'équilibre entre les chiites et les sunnites irakiens, d'une part. D'autre part, il y avait bien sûr les gens du Hezbollah en Syrie, Le compte, là, a été réglé par Israël. Et troisième chose, il y avait aussi le Hezbollah, donc au Liban. Et là aussi, Israël l'avait largement affaibli. En fait, voilà. Et donc, en quelque sorte, cette concession de Donald Trump à la négociation, comment dirais-je, est une concession finalement qu'il n'avait pas donnée aux Iraniens, mais à sa propre opinion publique et en particulier à sa base électorale. Ce qu'on appelle à la base le camp des MAGA, Make America Great Again, c'est-à-dire les gens, les républicains qui ont élu Donald Trump, réélu Donald Trump en 2024, et qui voulaient tourner la page de l'aventurisme guerrier des faucons républicains américains lors de la décennie 2000, et qui avait repris, qui avait été ensuite prolongé par les faucons démocrates avec la guerre d'Ukraine. Ils avaient dit à Donald Trump, aux milliardaires américains, vous nous promettez la fin de l'aventurisme, la fin de ces conflits sans fin qui nous coûtent des points de PIB importants et qui nous coûtent des hommes, des vies humaines, des soldats et qui en fait n'ont jamais de fin. Nous sommes d'accord avec ça et nous voterons pour vous. Et donc, ce camp MAGA était vraiment, vraiment opposé à tout aventurisme militaire et Donald Trump devait en tenir compte. Et finalement, il avait dit aux Iraniens, c'est soit on négocie la capitulation, soit c'est la destruction. Et j'en termine par là. Donald Trump est un homme très concret, on ne peut pas lui faire ce reproche. Il avait accumulé en janvier et en février autour de l'Iran une force navale et aérienne bien supérieure encore à celle que le George W. Bush Jr. avait accumulée en 2003 dans le golfe Persique pour soutenir l'invasion terrestre de l'Irak. C'est vous dire l'importance en fait du dispositif militaire américain en mesure d'appliquer les feux, c'est-à-dire tel le shérif, on vous dit soit vous déposez les armes, soit je vous tue. C'est le dilemme qui était posé aux Iraniens. Les Iraniens, enfin en tout cas le régime iranien, ne pouvait évidemment pas capituler sans s'auto-saborder, se faire harakiri en quelque sorte. Et donc, les choses se sont cristallisées ce week-end. Et peut-être pour terminer ce chapitre de ma réponse un peu longue, c'est un pari très risqué que vient de faire Donald Trump. Un pari très risqué sur le plan de la géopolitique de la région, d'une part, et d'autre part, un pari très risqué sur le plan de sa propre position politique et électorale dans le champ américain.
Oui, puis justement, concernant cette intervention militaire, seulement 27% des Américains soutiennent l'action de Donald Trump. Donc c'est pour dire à quel point les Américains sont extrêmement peu friands. Est-ce que selon vous, alors que les élections de mi-mandat approchent, c'est le bon timing pour Donald Trump pour lancer une telle opération ?
Alors, en fait, vous avez raison, l'opération est moyennement soutenue par les Américains, mais vous savez, aux États-Unis, comme d'ailleurs le raconte le correspondant Valeurs Actuelles dans le numéro qui sortira en kiosque ce mercredi, les Américains, en fait, n'aiment pas beaucoup les guerres lointaines, l'aventurisme guerrier. En revanche, ils aiment les victoires. Et ouais. En fait, les Américains aiment les gens qui gagnent, ils n'aiment pas les gens qui perdent. Et finalement, je crois qu'il y a trois scénarios sur la table pour Donald Trump. On parlera de l'Israélien après, les choses sont un peu différentes. Mais pour Donald Trump, finalement, il y a trois scénarios dans cette guerre. Un, dans les jours ou les semaines qui viennent, le régime iranien va s'auto-liquider. Et c'est ça le pari fait par les stratèges et les politiques américains, c'est qu'il était désormais possible par des frappes importantes et et comment dirais-je, concentrée sur les décideurs, d'accélérer la chute et le changement de régime de l'intérieur par les Iraniens eux-mêmes, dans une logique, une mécanique relativement maîtrisée. Quand je dis maîtrisée, c'est-à-dire demeurant relativement à l'intérieur des frontières de l'Iran. C'est ça que le premier pari que font les stratèges, c'est que vous savez que les Américains et les Israéliens travaillent au corps depuis des années, en fait, l'opposition, mais aussi les cadres du régime qui sont achetables puisqu'en fait l'économie va très mal. Et le premier pari, c'est que des leaders en place dans l'appareil d'État vont en quelque sorte profiter de cet affaiblissement réalisé par les frappes pour sortir les hommes, les figures du régime et installer, prendre le pouvoir. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier, la premier scénario. Le scénario idéal pour Donald Trump, et là, ce serait le jackpot. Et donc là, ce serait véritablement. Combien de temps il nous reste, Maïlys?
C'est fini, malheureusement.
Ah, c'est fini,
Voilà.
d'accord. Alors, en 2 minutes, et le deuxième scénario, c'est le pire. C'est une extension incontrôlée du conflit. Et le scénario entre deux, c'est le scénario vénézuélien, c'est-à-dire que Donald Trump se contenterait en fait de l'écartement de quelques figures et d'une capitulation de façade de l'Iran, et les choses repartiraient comme avant.
Merci beaucoup, Mireille Graffré, pour cette analyse, encore une fois, toujours très intéressante. On vous retrouvera évidemment la semaine prochaine, puisque je crois qu'on aura beaucoup à en dire encore de ce nouveau conflit.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et nous poursuivons avec Victor Aubert. Bonjour, merci d'être avec nous.
Chers auditeurs.
Alors, le 2 février dernier, la fraternité Saint-Pie-X a confirmé son intention de sacrer de nouveaux évêques cet été. Sur Internet, les anathèmes volent bas entre accusations de schisme, défense de la tradition. Ce matin, vous avez décidé de poser les choses et de nous livrer une chronologie précise et factuelle de cette crise.
Oui, tout à fait. Il y a un vrai brouhaha, les commentaires fusent dans tous les sens. Alors, je vous propose de reprendre le déroulé des faits. Alors tout commence donc le 2 février 2026, c'est la date à laquelle le supérieur de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X annonce publiquement la tenue donc de consécration épiscopale, donc sacrée de nouveaux évêques, prévue pour le 1er juillet donc 2026. Pourquoi fait-il cela? Tout simplement parce que les évêques qui ont été ordonnés par Mgr Lefebvre en 1988 sont morts ou sont très âgés, et donc en fait l'Église dépend des évêques pour pouvoir sacrer de nouveaux prêtres, pour pouvoir donner les sacrements fidèles. Donc sans évêques, finalement, plus la possibilité de continuer la mission. Donc face à cela, Rome va réagir. Alors je précise aussi que ça faisait depuis longtemps que la Fraternité Saint-Pie-X demandait au pape une audience, et donc il a fallu en quelque sorte annoncer cette nouvelle pour l'obtenir. Le 12 février, donc, une rencontre a lieu au Vatican entre donc le supérieur général de la Fraternité Saint-Pie-X, l'abbé Davide Pagliarani, qui est un Italien, et puis le cardinal Victor Manuel Fernandez, donc, qui est le préfet du dicastère pour la doctrine de la foi, mais qui est loin d'être un spécialiste des questions justement théologiques autour du concile ou des questions liturgiques également. Le cardinal Fernandez donc, va proposer donc, à la Fraternité Saint-Pie-X d'engager un dialogue qui sera spécifiquement théologique, mais à la condition que la Fraternité Saint-Pie-X suspende ses sacres, avertissant finalement qu'une ordination qui se ferait sans mandat pontifical impliquerait une rupture décisive de la communion ecclésiale, ce que l'on appelle un schisme.
Et quelle a été la réponse de la fraternité?
Eh bien, ça a été une fin de non-recevoir, hein, formelle, puisque le 18 février, l'abbé Pagliarani rejette la proposition du Vatican, expliquant que ce dialogue ne mène à rien, puisque justement Rome a décidé que de toute façon, a priori, les textes du Concile ne pourraient en aucun cas être corrigés et que la légitimité de la réforme liturgique ne peut pas être non plus remise en cause. Donc finalement, si on part du principe que j'ai raison, mais j'accepte que vous dialoguez avec moi, ça ne sert pas à grand-chose d'engager un dialogue. Donc l'abbé Pagliarani va justifier ses sacres, hein, en disant finalement, bah, nous sommes dans une situation d'urgence, de grave nécessité. Il y a un besoin concret à court terme pour la survie de la tradition dans l'Église. Et donc, dans une paroisse, alors ça c'est ce que dit l'abbé Pagliarani, hein, il dit que dans une paroisse ordinaire, les fidèles ne peuvent pas trouver les moyens suffisants pour assurer le salut de leur âme.
Et alors, ce refus frontal a évidemment fait réagir les théologiens. Que disent-ils ?
Ah oui, on a effectivement là un grand débat de théologiens justement, puisqu'on a le père donc Louis-Marie de Binière, donc fondateur de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier, donc d'inspiration dominicaine. Ce sont donc beaucoup de prêtres qui se consacrent énormément à l'étude théologique. Et donc le père de Binière, hein, traditionnaliste, qui a été issu justement dans sa formation, hein, de la Fraternité Saint-Pédis, lui s'oppose au sacre. Hein. Il explique que ordonner un évêque sans mandat, eh bien c'est usurper. Hein, usurper quoi ? Une juridiction, c'est-à-dire en fait finalement usurper à l'Église le droit finalement de faire soi-même sa propre loi sur un territoire, hein, ce qu'on appelle une juridiction. Et donc il rappelle qu'on ne combat pas une erreur par une autre erreur, hein, on ne combat pas l'hérésie par le schisme, et donc il développe dans une longue tribune justement son opposition à ces sacres en la basant sur des arguments très théologiques. Alors, de l'autre côté, il y a des prêtres qui ne sont pas non plus de la Fraternité Saint-Pédis, hein, notamment un prêtre diocésain espagnol, docteur en théologie, hein, Jaime Mercant Simo, curé diocésain, qui affirme que ces sacres ne sont pas un schisme parce qu'il n'y a pas d'intention justement d'établir une juridiction hiérarchique. Hein. Vous voyez, là, on est parfois un peu en train de couper le cheveu en quatre. Ce sont des débats de théologiens qui sont souvent effectivement un peu hors de portée pour le simple fidèle que je suis.
Ouais, et alors, du côté des évêques, on a lu des tribunes très fortes ces derniers jours.
Effectivement, Monseigneur Athanasius Schneider, donc, qui est évêque au Kazakhstan, a adressé un appel solennel au pape Léon XIV en lui demandant d'accorder pour la Fraternité Saint-Pédis un mandat apostolique afin d'éviter une division dans l'Église qui serait inutile, douloureuse. Il file la métaphore qui est assez frappante, hein, ce serait comme finalement des pompiers à qui l'on interdirait d'utiliser un équipement traditionnel efficace alors que la maison est en feu. En parlant évidemment de la Fraternité Saint-Pédis. Il y a également un évêque américain, alors qu'il avait été mis de côté par le pape François, Monseigneur Joseph Strickland, et qui lui affirme qu'une église qui considère la fidélité à la doctrine comme dangereuse et l'erreur comme quelque chose de pastoral est une église qui a déjà commencé à capituler.
Et certains estiment aussi que l'église officielle porte une lourde responsabilité dans cette crise.
Oui, alors il y a une tribune également qui est parue dans Famille Chrétienne par un prêtre diocésain, l'abbé Pierre Amard, qui appelle justement l'Église à un examen de conscience. Hein, pour lui, finalement, toute cette situation, c'est aussi parce qu'il y a eu des abus liturgiques dans l'après-concile. Ce sont eux qui sont à l'origine du mouvement de Mgr Lefebvre. Hein, il écrit finalement « Tel Frankenstein, nous avons fabriqué notre propre monstre ». Hein, et donc, il dénonce un deux poids, deux mesures, hein, de la part de Rome, qui se montre très patiente avec le chemin synodal allemand. Donc, c'est un mouvement très moderniste et on pourrait dire qui semble véritablement hérétique, hein, mais de l'autre côté, le Vatican est inflexible à la Fraternité Saint-Pédis. Et puis, il y a également le cardinal Sarra, on connaît bien le cardinal Sarra, qui est venu régulièrement en France, rappeler les Français justement à leur vocation, à la France, à sa vocation de fille aînée de l'Église. Et lui, il partage donc à la fois le diagnostic de la Fraternité Saint-Pédis sur la crise, il dit, oui, effectivement, il y a une crise de l'Église, il y a des problèmes de l'Église, mais ça ne justifie pas de se séparer de l'Église. Hein, il rappelle que l'obéissance au pape, c'est le seul rempart finalement contre l'orgueil, contre l'idéologie. Et donc, il va citer l'exemple de Padre Pio, donc, qui est un saint bien connu, qui a eu des stigmates, mais personne ne le croyait dans son temps. Donc, il a obéi, justement, en acceptant d'être mis au cachot, de ne plus confesser, de ne plus exercer son ministère. Et c'est cette obéissance qui a été fructueuse dans sa sainteté, notamment.
Victor Aubert, un mot pour conclure, peut-être, et une question pas la plus simple face à toutes ces déclarations que doivent faire les fidèles.
Je pense que déjà, le simple fait de constater que le débat est complexe, c'est déjà faire preuve d'un petit peu d'humilité. C'est se dire finalement, ce n'est pas moi en tant qu'individu qui vais dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Je vais essayer d'écouter et je vais accepter finalement la complexité de ces enjeux qui sont finalement multifactoriels avec une pluralité finalement d'éléments qui rentrent en compte. Donc, ce que je vous invite, chers auditeurs, hein, que vous soyez fidèles de la Fraternité Saint-Pédis, fidèles des instituts Ecclesiadei, ou simplement même si vous allez à la messe en français, même si vous n'êtes pas catholique d'ailleurs, eh bien, je pense que le rôle, hein, notre rôle à nous, c'est de ne pas nous écharper, hein, de ne pas finalement envoyer des anathèmes aux uns aux autres. C'est très facile sur les réseaux sociaux, surtout dans l'anonymat. Et comme nous sommes justement pendant le temps du carême, eh bien, je vous invite à prier, à faire pénitence pour l'unité de l'Église, pour la paix dans le monde aussi. Et je vous invite à sortir des caricatures, à lire justement les arguments de chacun avec honnêteté. Pour ceux qui veulent comprendre les racines profondes de cette crise, je vous envoie d'ailleurs aux travaux d'Académie chrétienne, parce que nous avons édité un livre blanc de la tradition que vous pouvez trouver gratuitement sur notre site internet. Mmh. Et puis, voilà, je vous invite tous à demander au Saint-Esprit de guider à la fois la Faille Saint-Pilis et puis le Vatican dans cette pénible affaire pour le bien des âmes et pour la plus grande gloire de Dieu.
Ouais, et c'est vrai que finalement, on peut presque se réjouir que ça tombe pendant le carême. Au moins, la période est propice à la réflexion et à la prière pour ceux qui le suivent, du moins. Merci beaucoup, Victor Aubert, pour cette chronique. Je vous dis à la semaine prochaine.
À bientôt, chers auditeurs. À bientôt, chers auditeurs.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Et on poursuit avec votre revue de presse, Gilles.
Bonjour, Liselotte.
On ne sait pas si l'offensive américaine et israélienne va durer longtemps, mais la presse, si elle est dubitative, revient sur certaines causes de ces attaques.
Oui, et puis les gros titres sont explicites ce matin. L'escalade pour l'Opinion, l'engrenage pour Libération et l'embrasement pour le Parisien. Et sur son site Omerta, Régis Le Sommier écrit que la chute du régime des Mollahs revêt, sous certains aspects, la fin du nazisme sous Roosevelt ou celle du communisme sous Reagan. Trump y a-t-il pensé lorsque samedi dernier, à 8h15, heure de Téhéran, il a donné son aval aux frappes de missiles qui ont tué le guide suprême iranien Ali Khamenei. Pour lui, l'Iran est plus faible que les États-Unis et Israël réunis, mais si la guerre se prolonge et que le régime survit, Téhéran déclarera victoire. Trump alors se contentera du scalp de Khamenei, mais bon, ça sera difficile à vendre à ses partisans, surtout à la veille de son élection de mi-mandat. Et de son côté, le chroniqueur Renaud Girard, dans sa chronique hebdomadaire dans les colonnes du Figaro, écrit que Donald Trump s'est engagé dans une très grosse partie de poker international. Force est de constater qu'elle a bien commencé pour lui, mais elle est loin d'être terminée. Alors il rappelle surtout que la théocratie iranienne est dans une situation aux antipodes de celle des gouvernements américains et israéliens. Elle est dans un état de grande faiblesse. Alors elle est proche du point de rupture, dit-il. Et Renaud Girard s'interroge, comment en est-elle venue là ? En 2003, le pouvoir religieux suprême ne s'était pas opposé à l'élection d'un président réformateur, le populaire Mohamed Khatami, élu en 97, réélu en 2001. Et Mohamed... Et extérieurement, l'Amérique, lui avait fait un cadeau en or en Irak, sans le vouloir, en y renversant le pouvoir sunnite de Saddam Hussein pour le remplacer par un pouvoir chiite proche de Téhéran. Et au lieu de profiter intelligemment d'une situation aussi favorable, l'Ayatollah Khamenei a commis 3 fautes stratégiques lourdes. D'abord en menaçant directement Israël. La théocratie iranienne s'est imprudemment attaquée à plus fort qu'elle. Elle a fini par perdre. Et lorsque Trump est revenu au pouvoir en 2025, elle aurait dû se méfier et faire d'immédiates concessions comme reconnaître le droit à l'existence d'Israël dans ses frontières de 66. La seconde erreur stratégique fut d'avoir privilégié la coûteuse constitution militaro-politique d'un axe chiite au Moyen-Orient à la satisfaction des besoins économiques essentiels d'une population iranienne jeune et en pleine expansion démographique. Et puis la troisième erreur, elle vient d'être commise. Pourquoi l'Iran s'est-il mis à bombarder les pétromonarchies du Golfe ? N'aurait-il pas été plus intelligent de n'attaquer aucun État sunnite, de se concentrer sur tous ses tirs contre Israël et de tenter de soulever l'Oumma des musulmans contre les diables sionistes, à lire dans le Figaro.
Et comment les États du Golfe ont réagi aux attaques et à cette escalade ?
Oui, alors justement, Rémi Pigaglio, dans l'Opinion, écrit que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont opéré un spectaculaire rapprochement. Samedi, l'homme fort d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, et le président des Émirats, Mohamed Ben Zayed, se sont appelés et ont condamné, je cite, « une dangereuse escalade qui menace la sécurité de la région et compromet sa stabilité », mais n'ont pas évoqué de représailles contre l'Iran. En fait, plus l'Iran frappera le Golfe, plus les deux pays se rapprocheront. Et la stratégie de l'Iran semble d'être d'augmenter le coût humain chez ses pays alliés de Washington et de faire peser une menace sur l'économie mondiale en attaquant les infrastructures énergétiques de la région, cruciales pour l'approvisionnement des hydrocarbures de la planète. Bon, reste la politique engagée par Trump, et je vous conseille à ce moment-là de lire vraiment dans l'Opinion la page en association avec The Wall Street Journal titrée « Pourquoi Trump, le président de la paix, renverse les régimes à l'étranger ?» Les journalistes rappellent le temps où Donald Trump, en 2013, affirmait qu'Obama attaquerait un jour l'Iran afin de montrer à quel point il est fort. Et Trump, qui en 2016 critiquait et avait critiqué sévèrement la guerre en Irak, la qualifiant de l'une des pires décisions jamais prises par un président. Et n'oublions pas aussi la déclaration de Vance, un ancien marine qui avait servi en Irak et qui affirmait que l'idée de nous retrouver dans une guerre sans fin au Moyen-Orient pendant des années est tout simplement inconcevable.
Et puis le président de la République a fait des annonces hier en Bretagne.
Oui, alors le visage de Macron s'est creusé, écrit Arnaud Florac sur le site de Boulevard Voltaire. Il a travaillé sa voix des jours austères, c'est son côté maître de Santiago, comme dans la pièce de Monterland, ou Tartuffe, on hésite. Bref, nous allons avoir un nouveau sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Il sortira des chantiers navals en 2036 et s'appellera l'Invincible. Bon, c'est chouette ça, un nouvel bâtiment de pointe qui lance des missiles nucléaires et porte un nom qui sonne bien, ça fait 30 glorieuses, ironise le journaliste. Ensuite, nous allons avoir davantage de têtes nucléaires, combien, c'est un secret et c'est bien normal. Bon, et cette dissuasion avancée alors ? Emmanuel Macron fait un peu le mystérieux. 8 pays seraient intéressés par ce concept qui consisterait pour la France à déployer ses capacités de frappe dans d'autres pays que le nôtre, mais aussi à conduire des exercices interalliés et même à faire visiter ses installations. Et le chroniqueur de Boulevard Voltaire ajoute « Les souverainistes comprendront que nous allons nous appuyer sur les infrastructures de nos voisins pour projeter notre puissance. Et puis les européistes y verront le premier pas vers un abandon plus large, une coopération, disent-ils. Tout dépendra peut-être d'une éventuelle candidature de Macron à la succession d'Ursula von der Leyen. Et quand il parle de l'invincible, n'est-il pas, une fois de plus, en train de penser à lui ?
Je suis désolée, Gilles, il n'y a pas le temps pour...
Voilà,
pour
on finir. Parlera des municipales la prochaine fois.
Bah, demain, avec grand plaisir. Bonne journée, Gilles, et à demain.
À demain.
Merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous sur YouTube et sur X. Je vous rappelle que la radio compte vivement sur vos dons pour pouvoir continuer à émettre.
Absolument, Liselotte. Et pour aider Radio Courtoisie, le plus simple est d'aller sur soutenir.rc.fr et faire un don en ligne en fonction de vos moyens. Soutenir.rc.fr ou vos chèques au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Libellé à l'ordre de Radio Courtoisie. Merci.
Voilà, et tout de suite, on discute avec David Cumin. Qui retirera le plus grand bénéfice de la guerre ? C'est sur la bande FM ou sur rc.fr.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour débuter, nous sommes avec David Cumin, enseignant-chercheur à l'Université de Lyon 3. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci de m'avoir convié.
Eh ben, on a hâte d'entendre votre avis sur ce conflit en Iran. La crise s'éternisait et puis désormais, ça y est, les choses explosent. C'est presque une façon peut-être pour tout le monde de mettre sur la table des tensions qui couvaient depuis un certain temps. Néanmoins, hier, on avait Régis Le Sommier à notre antenne qui commençait son édito en nous expliquant qu'il s'était arraché les cheveux à essayer de comprendre les raisons qui avaient poussé les États-Unis à s'engager sur ce terrain. Et puis surtout, voilà, pourquoi maintenant ? Est-ce que vous avez une lecture de ces événements particulières, David Cumin ?
Oui, écoutez, nous avons derrière nous 47 ans d'hostilité au singulier entre l'Iran et les États-Unis, avec parfois quelques actes d'hostilité au pluriel. Nous avons eu des mesures économiques, tout ce qui était boycott, embargo, menaces, le soutien à Israël. Et puis depuis juin 2025, les choses se sont accélérées, comme nous le savons. Alors, ce qui s'est passé, je crois, c'est que depuis 2023, on a assisté à un tournant, c'est que l'Iran chiite, la République islamique d'Iran, avait édifié son arc chiite à partir de 2004. Il leur a duré moins de 20 ans. À partir de 2023, Israël a démoli le Hamas, le Hezbollah. Le régime baasiste syrien, qui était un allié de l'Iran, a été renversé. L'Iran a montré son impuissance militaire et diplomatique. Et ma foi, on s'est dit en Israël, à Tel Aviv, que une fois démolis les proxys, comme on dit, les alliés de l'Iran, pourquoi ne pas porter les stockades et démolir le régime iranien ? Et les États-Unis se sont associés à l'opération. C'est une guerre israélo-américaine et pas seulement américaine. Donc nous avons eu depuis 2002 la crise nucléaire iranienne qui avait éclaté. Donc là encore, s'accompagnant de diverses mesures économiques pour faire plier l'Iran. Et puis Israël menait diverses actions secrètes. Il y avait eu des meurtres de responsables scientifique iranien, l'opération Stuxnet, c'est-à-dire des frappes cybernétiques contre le programme nucléaire iranien. Donc, le crescendo, nous allions crescendo dans les tensions, l'hostilité montait, et puis 2025, on est passé à la contre-prolifération manu militari, c'est-à-dire les frappes israéliennes et puis américaines pour démolir le gros du programme, avec des frappes précises, avec des bombes creusantes. Alors ça, c'est le premier aspect, si vous voulez, de la présente guerre, c'est de la contre-prolifération en rebondissement de juin 2025. Mais on va plus loin, puisqu'il ne s'agit pas seulement de frapper les sites nucléaires, plus loin même que la contre-prolifération balistique, puisqu'il ne s'agit pas seulement de frapper les sites de missiles, il s'agit de désarmer l'Iran, il s'agit de décapiter le régime iranien, pour favoriser une révolution. On pousse la contre-prolifération jusqu'au changement de régime. Voilà, au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Et je crois que donc nous sommes en mars 2026. Évidemment, les états-majors passent leur temps à planifier des opérations. Donc, ce type d'opération a été planifié du côté israélien, du côté américain depuis très longtemps. Là, il faut toute une logistique, etc. Bon, mais je crois que c'est à partir de 2023-2024 qu'il y a eu ce tournant. D'abord, les alliés de l'Iran démolis, et ensuite, pourquoi pas, le régime iranien lui-même. Alors, comment démolir un régime? C'est pas chose facile. Alors, voyez ce qui a été choisi. Les aviations israéliennes et américaines disposent de moyens précis, de moyens de frappe précise. On localise les dirigeants, on localise les sites clés du régime, autrement dit les forces armées, les forces de police, etc. Et on s'efforce de couper les têtes. Et effectivement, le 28 février, la tête suprême a été coupée, Ali Khamenei. Et d'autres hauts cadres militaires ou politiques. Alors, voilà, donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que nous avons une révolution, un changement de régime exporté par la voie du bombardement aérien. Bon, il n'est pas question de troupes au sol, du moins pour l'instant. On n'imagine pas des troupes israéliennes au sol, américaines peut-être, mais ça serait très délicat. Mais vous comprenez, donc, si on, comment dirais-je, ce bombardement aérien, d'après ce qu'on entend, d'après ce qu'on peut deviner, donc on décapite le régime, on affaiblit ses forces militaires et policières, et on escompte qu'au sol, des opposants, eh bien, surgiront, prendront le pouvoir, en quelque sorte, dans les différentes grandes villes du pays, s'empareront des commissariats, des tribunaux, des centres de radio-télévision, et puis jusqu'à Téhéran, et puis à Val, donc nous aurions une espèce de grand changement de régime par voie aérienne, d'une part, et puis par voie décentralisée, populaire, locale, d'autre part. Voilà le pari, en quelque sorte, côté israélo-américain. Donc cela suppose deux choses, que les frappes soient suffisamment soutenues pour effectivement décapiter le régime, bon, et d'autre part qu'il y ait des opposants, et des opposants qui aient l'audace de s'emparer d'armes et de s'emparer du pouvoir. C'est inédit, cela. Mais nous avons quand même, pour réfléchir, des précédents, et les précédents ont été désastreux, du changement de régime par voie militaire avec troupes au sol. Cela s'est pratiqué, rappelez-vous, à partir de 2001 en Afghanistan et à partir de 2003 en Irak. Et ça nous a accouché de 20 ans de guerre civile internationalisée dans ces deux pays, sans compter les cas syriens, yéménites. Bon. Donc, est-ce qu'en Iran, ça pourrait mieux se passer? Moi, mon sentiment, c'est que nous avons là une guerre régulière, aérocentrée, rapide, qui probablement sera victorieuse. Bon, les coups assénés à l'Iran sont terribles. Bon. Mais ensuite, ce que je vois, moi, c'est une espèce d'avant-guerre civile, parce que le pouvoir à prendre en Iran, c'est un vaste pays pluriethnique, où le chiisme constitue le ciment de l'État iranien. Vous ôtez le chiisme, vous démolissez le chiisme politique, bah, qu'est-ce qui va rester? un noyau persan autour des populations périphériques qui ne sont pas persanes, même si elles parlent le persan, même si des persans s'y sont installés, et inversement, des azéris, des arabes, des turkmènes, des balouches ont pu s'installer dans le noyau, dans le plateau central persan. Le pays n'est pas, comment dirais-je, si fragmenté que cela. Mais enfin, les Kurdes, je pense aux Kurdes, eux, avec leurs frères d'Irak voisins, ils pourraient s'emparer du pouvoir dans leur région. Alors, quid des Turcs? Comment réagiraient-ils? Bon. Donc, moi, ce que je vois arriver, c'est après la guerre étrangère, la guerre entre États, aérocentrée, je vois venir une guerre civile. Et alors, guerre civile, ça signifie évidemment de l'instabilité, ça signifie des réfugiés, des déplacés, ça signifie que les pays voisins, évidemment, ne se sentiront pas en sécurité. Qu'est-ce qui va sortir de la guerre civile iranienne? C'est le gros point d'interrogation. On escompte que parmi les opposants iraniens, il y ait des démocrates pro-occidentaux, on va dire. Il y en a sans doute. Il y en avait en Irak, il y en avait en Afghanistan. Mais ils ne l'ont pas emporté. Pourraient-ils l'emporter en Iran? Je ne sais pas. L'Iran n'a jamais connu de démocratie occidentale. Hein. Le régime du Shah était un régime moderniste, pro-occidental. Mais ce n'était pas vraiment un régime démocratique. Effectivement. Alors là, ce serait une nouveauté. Alors les exilés amèneraient dans le pays l'expérience de la démocratie, les Iraniens du cru y adhéreraient. Nous sommes dans l'expectative. Bon, au minimum, côté israélien et américain, l'Iran serait démoli, enfin, la puissance militaire iranienne serait très affaiblie, le programme nucléaire et balistique serait démoli, l'Iran ne constituerait plus une menace pour Israël ou pour l'Amérique et pour les pétromonarchies du Golfe alliées à l'Amérique. Ça serait déjà un résultat pour Tel Aviv et puis Washington, que le régime soit très affaibli. Mais après, quid de ce qui va se passer dans ce très vaste pays? La Russie et la Chine seraient privées d'un partenaire. Les investissements chinois tomberaient dans l'eau, si je puis dire. L'Amérique en même temps démontre sa suprématie aéronavale et militaire. Je ne peux pas m'empêcher de comparer avec ce qui se passe en Ukraine. Rendez-vous compte, l'armée russe qui peine à s'emparer du Donbass depuis 4 ans, et les États-Unis, eux, en quelques semaines, qui déploient une part de leur armada et qui portent l'estocade sur un État. Le contraste de puissance militaire, d'efficacité militaire, de qualité opérationnelle militaire est vraiment frappant. Hein. Mais ce n'est pas que l'Amérique toute seule, hein, je répète. Nous avons dans la région ce que j'appellerais Castor et Pollux, Trump et Netanyahou. Nous avons un binôme avec une lance militaire israélo-américaine tout à fait impressionnante, avec les bases américaines, les porte-avions, Israël lui-même. Alors, en face, l'Iran réagit avec les moyens dont il dispose. Donc, le régime essaie de serrer les rangs. La répression la surveillance de la population va s'accélérer. Le régime a décentralisé ses forces. Et puis, l'Iran frappe les bases américaines, frappe Israël à l'aveugle, puisque ne disposant guère de moyens précis. Quelque part, évidemment, si l'Iran continue à frapper à l'aveugle, de facto, il va entrer en guerre contre les pétromonarchies, et pourquoi pas contre la France, la Grande-Bretagne, accroissant son isolement. Bon, je dirais que États-Unis et Israël n'ont pas besoin d'alliés pour frapper en plus l'Iran, mais pourquoi pas, effectivement, si la France s'en mêle ou la Grande-Bretagne, c'est toujours ça de plus. Mais enfin, je ne pense pas que ce soit décisif. Je vois plutôt, moi, puisqu'on parle de est-ce que la France va intervenir, je vois plutôt la marine française, le Charles de Gaulle, évacuer les ressortissants, participer à la protection des pétromonarchies. Quant à des frappes françaises sur le sol iranien, bon, nous verrons bien. Mais je ne pense pas que l'Amérique et Israël aient besoin de nous.
Hein. Non, c'est certain.
Voilà, ils ont suffisamment de moyens eux-mêmes. Hein. N'oublions pas que nous revenons à cette décapitation dont je parlais. Donc des milliers de cadres ont été, sont et seront tués, policiers, militaires, armée régulière, et puis l'acheté, et puis les passes d'Aran. Bon, mais n'oublions pas que les vétérans, les Basidji, les passes d'Aran, l'armée, les forces de police, tout cela fait des centaines de milliers, des millions d'hommes. Il y a de quoi tenir. J'ai envie de dire, quand on tue les numéros 1, les numéros 2 sont contents, ils prennent la place. Alors après, eux-mêmes sont tués, mais il y aura les numéros 3. Bon, il y a un moment, peut-être, vont-ils se lasser. Admettons que les opposants prennent le pouvoir. Rappelez-vous, les talibans et le Baas irakien. On a détalibanisé et débaassisé. On a mis au chômage, on a licencié d'anciens policiers ou militaires du Baas et des talibans. Là, c'est Pasdaran qui seront licenciés ou mis au chômage, qui ont l'expérience du combat, qui ont foi en leur cause. Moi, je les vois revenir, je les vois venir à l'insurrection, à la clandestinité, comme les gens du Baas en Irak autrefois, après 2003, et les talibans après 2001. Donc, voilà, nous sommes... Je crains, vous voyez, que l'Iran ne s'enfonce dans la guerre civile après la guerre étrangère.
Oui, c'est probable. Et on imagine que c'est une guerre civile qui sera de toute façon influencée au-delà donc, des différents courants au sein même du peuple iranien par des puissances comme Israël, puisque ce conflit, voilà, au-delà de la contre-prolifération, c'est aussi un conflit très idéologique et même, risquons les mots, presque religieux en ce qui concerne oui. En tout cas Israël.
Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a un aspect profondément religieux.
On doit conclure en deux mots, pardon, David Cumin.
Oui. Du côté d'Israël, effectivement, on ne se réfère pas qu'à l'Israël d'autrefois laïque, etc. Mais c'est la terre promise, hein, bien sûr. Et puis du côté iranien et des amis de l'Iran, la Palestine est terre sacrée, terre islamique. Et on se réfère à un droit religieux des deux côtés, le droit juif d'un côté, le droit musulman de l'autre. Oui, il y a un aspect existentiel. Hein. C'est pour ça que c'est une hostilité qui est très profonde et qui se traduit par les hostilités que nous savons. Celle-ci, c'est un petit peu le sommet émergé de l'iceberg, hein, parce que depuis très longtemps, on a des coups fourrés de part et d'autre, on a des agents secrets, on a des frappes cybernétiques, les meurtres de savants, on a tout un aspect de guerre secrète hein, depuis très longtemps. Mais là, vous voyez, la guerre est ouverte, hein, juin 2025, et puis là, depuis le 28 février. Admettons
conclure,
que le régime
s'apaise.
Il n'est pas sûr qu'on sorte une démocratie ni pro-américaine ni pro-israélienne, parce que parmi les opposants au régime, il y a l'extrême gauche iranienne qui était puissante, avec des exilés qui sont aussi très virulents. Donc si ça se trouve, la Russie n'est pas très loin, la Chine était une amie, il n'est pas exclu que sorte du chapeau un régime léniniste qui serait également hostile à Israël et aux États-Unis et à l'Occident.
Si vous le voulez bien, on vous réinvitera, David Cumin, sur un plus long format, puisque c'est passionnant de discuter avec vous. Vous devez être un bon professeur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous livrer votre analyse de ce conflit qui voilà, débute dans sa version active, mais qui, comme vous l'avez rappelé, en fait, couve depuis des années maintenant. On vous réinvitera très prochainement pour poursuivre cette discussion. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Liselotte Dutreuil.
Merci chers auditeurs d'avoir été avec nous ce matin. La radio continue toute la journée, mais c'est la fin de votre matinale. Je vous rappelle que la radio est libre et indépendante. On est libre du choix de nos sujets, de nos invités. Et tout ça, c'est grâce aux auditeurs qui font déjà des dons.
Absolument, les autres médias ont besoin de recourir à la publicité ou à des subventions, mais cela se fait souvent avec des pressions ou des obligations de programmation. Pas chez nous, c'est nous qui décidons, c'est vous qui décidez de nous soutenir ou pas. Alors, si vous décidez de soutenir Radio Courtoisie, rendez-vous sans délai sur soutenir.rc.fr pour faire votre don et votre participation, soutenir.rc.fr. Merci d'avance.
Et merci à ceux qui donnent déjà. Quel est le programme du jour ?
Dans quelques instants, Louise D'Artois, une fille de France au destin mouvementé dans les mardis de la mémoire d'Anne Collin. Ensuite, à midi, le libre journal de la Nouvelle Droite, dirigé par Xavier Aimant. Analyse du phénomène, c'est Nicolas qui paye. À 16h, Planche, Cache et Bulle de Richard de Sèze. 16h30, le RC Mac de Jean-Étienne Poza pour Blanchiment d'idées sales. 17h, Populaire, vous avez dit Populaire, l'émission de Renaud Dourge, aujourd'hui sur le roman policier. 17h30, Restons courtois en compagnie de Richard de Sèze. Quel avenir international pour la France. 19h30, le libre journal du droit et des libertés d'Olivier Tournafond. 21h30, le libre journal du monde de la foi. Et à 23h, la soirée musicale de Claudia avec notamment Harold en Italie opus 16 de Berlioz au programme.
Et nous, on se retrouve demain à 7h pour une nouvelle matinale. Bonne journée.
Bonne journée à tous.